Ne pouvons-nous encore avancer hardiment que nos désirs ambitieux et avares, qui, se laissant guider par la science et la raison, poursuivent sous leur conduite les plaisirs que leur indique la sagesse, atteindront alors les plaisirs les plus vrais qu'il leur soit permis d'atteindre, parce que c'est la vérité qui les guide, et des plaisirs conformes à leur nature, parce que ce qu'il y a de meilleur à chaque chose est aussi ce qui a le plus de conformité avec sa nature. Oui, rien de plus vrai. Lors donc que l'âme marche tout entière à la suite de l'élément philosophique, et qu'il ne s'élève en elle aucune sédition. Outre que chacune de ses parties se tient dans les limites de ses fonctions et du bon ordre, elle a encore la jouissance des plaisirs qui lui sont propres, des plaisirs les plus purs et les plus vrais dont elle puisse jouir. Oui, sans doute. Au lieu que, quand une des deux autres parties obtient le pouvoir, il arrive de là, en premier lieu, qu'elle ne peut se procurer le plaisir qui lui convient. En second lieu, qu'elle oblige les autres parties à poursuivre des plaisirs faux et qui leur sont étrangers. Oui, cela est certain. Ce qui s'éloigne davantage de la philosophie et de la raison est aussi plus capable de produire ces funestes effets. Assurément, oui. Mais ce qui s'écarte davantage de l'ordre et de la loi ne s'écarte-t-il pas de la raison dans la même proportion? Cela est évident, oui. Et ne sont-ce pas les désirs amoureux et tyranniques qui ont été trouvés s'en écarter davantage? Oui. Et les désirs modérés et monarchiques s'en écarter le moins? Oui. Par conséquent, le tyran sera le plus éloigné du plaisir véritable et propre de l'homme, au lieu que le roi en approchera d'aussi près qu'il est possible. Fort bien. La condition du tyran sera donc la moins agréable, et celle du roi, la plus agréable qu'on puisse imaginer? Cela est incontestable. Sais-tu de combien la condition du tyran est moins agréable que celle du roi? Si tu me le dis. Il y a, selon nous, trois espèces de plaisirs, l'une vraie, les deux autres fausses. Or, le tyran, placé au terme extrême des plaisirs faux, le tyran qui a renoncé à la loi et à la raison, qui vit entouré d'un cortège de voluptés serviles. De combien s'en faut-il qu'il égale l'autre en véritable plaisir? Voilà ce qu'il n'est point aisé de déterminer, si ce n'est peut-être de cette manière. De quelle manière, Socrate? Le tyran est le troisième après l'homme oligarchique, car entre eux se trouve l'homme démocratique. Oui. Par conséquent, si ce que nous avons dit tout à l'heure est vrai, le fantôme de plaisir dont jouit le tyran est trois fois plus éloigné de la vérité que celui dont jouit l'homme oligarchique. Oui, cela est ainsi. Mais si nous comptons pour un seul, l'homme royal et l'homme aristocratique, l'oligarchique est aussi le troisième après lui. Il l'est en effet. Le tyran est donc éloigné du vrai plaisir, le triple du triple. Évidemment. Par conséquent, le fantôme de plaisir du tyran, à le considérer selon sa longueur, peut être exprimé par un nombre plan. Oui. Or, en multipliant cette longueur par elle-même et l'élevant à la troisième puissance, il est aisé de voir combien le plaisir du tyran est éloigné du véritable. Oui, rien de plus aisé pour un calculateur. Maintenant, si l'on renverse cette progression et qu'on cherche de combien le plaisir du roi est plus vrai que celui du tyran, on trouvera, le calcul fait, que la condition du roi est 729 fois plus agréable que celle du tyran, et que cette dernière est plus pénible dans la même proportion. Tu viens de trouver par un calcul tout à fait surprenant l'intervalle qui sépare le juste de l'injuste, sous le rapport du plaisir et de la douleur. Ce nombre exprime, au juste, la différence de leurs conditions. Si toutefois tout s'accorde de part et d'autre, les jours, les nuits, les mois et les années. Tout s'accorde de part et d'autre, disons. Mais si la condition de l'homme juste et vertueux surpasse si fort en plaisir celle de l'homme injuste et méchant. Ne la surpassera-t-elle pas à un degré infiniment plus élevé en décence, en beauté et en mérite? Oui, certes. Maintenant, puisque nous en sommes venus ici, reprenons ce qui a été dit au commencement et a donné occasion à cet entretien. On disait, ce me semble, que l'injustice était avantageuse au parfait scélérat, pourvu qu'il passât pour honnête homme. N'est-ce pas ainsi qu'on s'est exprimé? Oui. C'est donc à notre premier adversaire qu'il en faut revenir, à présent que nous sommes d'accord sur les effets que produisent les actions justes et injustes.